That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Regardez cette image, c'est la toute première fois que vous voyez un trou noir.
Rosetta, c'est le nom de cette sonde qui termine un voyage de 10 ans. L'engin de 32 mètres d'envergure va se mettre en orbite, sans doute en fin de matinée autour d'une comète, ce qui serait une première, et la sonde tentera d'y larguer un petit robot.
La tête dans les étoiles. Votre revue de presse en astronomie, une émission préparée, réalisée et présentée par Aurélien Housset.
Le robot Curiosity s'est posé sur Mars et part à l'attaque de la planète rouge.
Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir ici sur votre station radiophonique et station spatiale. Vous savez, dans cette émission, on ne sait pas trop, pour ce nouveau numéro de votre émission en ce mois de janvier 2025. Première émission de l'année et donc, je me permets de vous souhaiter une excellente année 2025. De la joie, de la sérénité, mais aussi et surtout la santé, car la santé, c'est la vie. Alors aujourd'hui, sachez que nous parlerons du système solaire qui aurait été frôlé par une étoile, une autre étoile que notre Soleil. Nous parlerons de cette possibilité ou pas de dévier un astéroïde. Nous parlerons enfin de la surface d'une étoile qui présente un genre de bulle, des photos surprenantes. Mais sans plus tarder, commençons cette nouvelle émission en ce mois de janvier 2025 avec le système solaire qui aurait été frôlé par une étoile. C'est Science et Vie qui nous a révélé cette information dans son édition de novembre dernier, comme quoi, le système solaire aurait été frôlé par une étoile. Alors certains petits corps de notre système solaire suivent une orbite étrange, d'après les scientifiques. Alors or, selon une nouvelle simulation, leur course résulterait du passage d'une étoile tout près de notre monde. C'est en écoutant tout simplement des collègues s'interroger sur les orbites anormales de transneptuniens que Suzanne Pfaff-Lesner, astrophysicienne au centre de recherche de Juliers, c'est en Allemagne, a eu cette intuition. Au-delà de Neptune, en effet, certains petits corps suivent en effet une trajectoire très inclinée par rapport au plan dans lequel se déplacent la plupart des autres éléments de notre bon système solaire. Alors avec son équipe, c'est simple, la chercheuse a alors mené plus de 3000 simulations des effets du passage d'une autre étoile à proximité. Trois d'entre elles, très similaires, reproduisent ces mouvements étranges. Elles dressent le portrait d'une étoile à peine plus petite que notre bon Soleil qui aurait frôlé le disque où se formaient les planètes il y a plus de 4 milliards d'années, passant à seulement 16,5 milliards de kilomètres de lui. 110 fois la distance Terre-Soleil. C'est assez proche, c'est très proche même, à l'échelle de l'univers. Le plus beau, c'est que cette simulation reproduit aussi d'autres anomalies. C'est ce que les scientifiques n'attendaient pas. Des transneptuniens ont pu être projetés vers l'intérieur du système solaire, où ils ont été happés par la gravité des géantes Neptune, Uranus, Saturne ou Jupiter. Et ainsi seraient nées les lunes irrégulières qui tournent dans le sens inverse des autres. C'est une question qui peut être angoissante, anxiogène, surtout devant plusieurs films, dont Armageddon par exemple, de science-fiction. Est-ce possible de dévier un astéroïde ? Peut-être, mais il faudrait le repérer environ 10 ans en avance. C'est ce que révèle pour nous Science et Vie. Auquel cas, pour un objet de plus de 50 mètres, il faudrait tenter de le dévier. Alors par exemple, on peut utiliser un moteur ionique pour pousser l'astéroïde lentement et changer sa trajectoire. On peut aussi placer un satellite en orbite autour de lui pour que sa gravité modifie graduellement la trajectoire de l'astéroïde. Quant aux bombes nucléaires qu'affectionne Hollywood, et vous avez peut-être en référence certains films ou téléfilms, ce sera un dernier recours car nous n'avons aucune expérience de leur effet pour une telle opération. Et oui, souvent dans les films, on explose un astéroïde et puis du coup, il y en a plein d'autres. Alors une autre méthode sera testée par la NASA avec la mission DART pour Double Astéroïde Radiation Test. Un petit vaisseau partira à la rencontre du double astéroïde Didymos pour tenter de changer la vitesse du plus petit des deux corps, épais quand même 260 mètres de diamètre, enfonçant sur lui. L'ESA y retournera dans quelques années avec la mission ERA pour en vérifier tout simplement le résultat. Donc chers amis, sachez que tout n'est pas impossible et que nombreux sont les travaux de recherche dans cette direction pour dévier convenablement un astéroïde afin qu'il ne frappe pas notre bonne planète comme ce fut le cas dans le passé, on le sait maintenant. Alors dans le même état d'esprit, ou à peu près, comment savoir d'où viennent les météorites ? Eh bien tout simplement en comparant différents points de vue de leur chute, ainsi qu'en analysant leur composition chimique. Et oui, alors pour connaître le trajet d'une météorite jusqu'à notre bonne planète, les scientifiques utilisent tout d'abord une technique de triangulation. Ils réunissent toutes les vidéos filmant le parcours de l'objet céleste, décortiquent sa trajectoire en deux dimensions sur chacune d'elles. Une vidéo ne restitue en effet pas le plan de profondeur, on peut le deviner. Et en les combinant, reconstitue la trajectoire de la météorite en 3D. Deux caméras au moins donc sont nécessaires pour cette réalisation. C'est dans cette optique que plusieurs institutions françaises ont lancé, il y a maintenant 11 ans, le projet Fripon. Objectif, surveiller en continu le ciel afin de détecter l'entrée de bolides extraterrestres dans notre atmosphère. Une centaine de caméras ont été installées en France métropolitaine, il faut le savoir. Alors depuis, les trajectoires de plusieurs centaines de météores, dont une petite fraction sont parvenues à la surface terrestre sous forme de météorites, ont pu être modélisées. Il y a un problème. Cette technique permet de retracer la route des bolides, mais reste souvent trop approximative pour en déterminer le point de départ précis. Alors, afin de poursuivre les investigations, comme le souligne Science et Vie, les scientifiques analysent alors leur composition chimique et la comparent avec celle d'autres corps connus dont la provenance est connue ou alors, brièvement suspectée. De quoi remonter à leurs origines jusqu'ici. 99,8% des météorites étudiées sont issues de la ceinture d'astéroïdes située juste après Mars en partant du Soleil et les 0,2% restantes de la Lune, de notre Lune et de Mars. êtes la tête dans mon MP3, chers amis. Non, vous êtes bien à l'écoute de La Tête dans les Étoiles. Mais en ce début d'année 2025, je me suis fait plaisir dans la programmation musicale. C'est un instrumental que je connais depuis une dizaine d'années, que j'affectionne particulièrement. Et je souhaitais le partager avec vous. C'est le légume mésopotamien de Mock. Morceau qui est sorti, tout simplement, en 2014. Et oui. Alors, chers amis, nous poursuivons cette émission avec. Nous approchons très rapidement de la fin, je vous le dis déjà. Nous parlerons maintenant. Je vais à présent vous parler des bulles qui se forment à la surface d'une étoile. Alors, bien évidemment, il faut avoir en tête une image. Une image de télescope. Alors, distinguer les circonvolutions du gaz bouillonnant à la surface d'une autre étoile que le Soleil, eh bien, il faut savoir, chers amis, que c'est ce qu'a révélé Science et Vie en novembre dernier, et c'est un exploit réalisé par des chercheurs suédois avec l'aide du télescope ALMA. Alors, il faut savoir qu'ALMA est un télescope dont on ne parle pas beaucoup, mais qui existe depuis plusieurs années. Donc, c'est la première fois, en tout cas, que ces 50 antennes sont utilisées à même temps pour obtenir une observation aussi détaillée. Vous pouvez peut-être retrouver la photo en très très bonne qualité sur Internet. Alors, c'est une photo, une observation, tellement détaillée que l'on peut voir les différents mouvements de convection d'une étoile s'agiter comme des bulles sur sa surface, ce qui donne cette structure granulaire. Alors, l'astre en question, si vous voulez le chercher sur Internet, c'est R Doradus. R Doradus, une géante rouge située à environ 180 années-lumière de notre planète. C'est pas trop la porte à côté. Elle a la même masse que notre Soleil, mais elle est pas loin de 350 fois plus large. Alors, les scientifiques espéraient voir l'effet des mouvements convectifs et du gaz dans l'atmosphère de l'étoile, et finalement, ils ont mesuré les mouvements convectifs eux-mêmes. Et donc, c'est un exploit. Ils ont même pu étaler les observations sur plusieurs semaines. Une durée donc suffisante pour mesurer la vitesse des cellules convectives. Chacune est environ 75 fois plus grande que le Soleil, mais elles sont 3 à 4 fois plus rapides que celles de notre étoile, précisent les scientifiques pour Science et Vie. Donc, l'article se termine sur cette perspective. Ils n'ont pas encore toutes les explications. Chers amis, affaire à suivre. Ah, chers amis, une petite virgule musicale, un petit Moby, c'est sympa Moby, très sympa Moby, Play, c'était 1999, si mes souvenirs sont bons, c'est un petit bijou, un album, vraiment un petit bijou. Pour terminer cette émission, en ce mois de janvier 2025, je vais répondre à cette question, est-ce que toutes les planètes ont des saisons comme nous connaissons ici sur Terre? Eh bien non, certaines comme Mercure, Vénus ou encore Jupiter dans notre système solaire ne connaissent aucune variation saisonnière, c'est ce que révèle Science et Vie dans son édition de novembre dernier. Alors, dans la majorité des cas, le cycle des saisons est dû à l'angle que prend l'axe de rotation de la planète par rapport à son plan orbital. Et on le sait, la Terre penche de 23,4 degrés lorsqu'elle tourne autour du Soleil. Son pôle nord pointe en direction de l'étoile durant la moitié de son trajet. L'hémisphère nord est alors davantage exposé à la lumière, il y fait plus chaud, c'est donc, et oui, le printemps et l'été, pendant que l'hémisphère sud est en hiver. Et puis, ce phénomène s'inverse. Le pôle sud pointe vers le soleil, c'est donc l'automne et l'hiver dans l'hémisphère nord. Pour Mars, par exemple, eh bien, la situation est similaire, avec un axe de rotation incliné d'environ 25 degrés. En revanche, il n'y a aucune saison sur Vénus, car son axe est pratiquement non incliné. C'est la même chose pour Jupiter. Enfin, aucune saison, ou qu'une seule saison, tout au long de l'année. Mais dans de plus rares cas, un autre phénomène peut être à l'origine des saisons. Il faut le savoir, la variation de distance par rapport à l'étoile. L'orbite de Pluton, par exemple, est très elliptique et excentrique. Au fil de sa rotation autour du Soleil, qui dure, attention, 248 ans, et oui, Pluton est très très éloigné du Soleil, eh bien cette planète naine peut se retrouver au plus proche à 4,5 milliards de kilomètres de l'étoile et au plus loin à 7,4 milliards de kilomètres. Une différence donc de près de 3 milliards de kilomètres. Résultat, eh bien la quantité de lumière qu'elle reçoit varie de 280% au cours de sa révolution. Les saisons sur Pluton sont donc très marquées et surtout très très longue. Le printemps plutonien dure depuis 1988. Il vaut mieux pas y vivre en hiver. Chers amis, c'est sur cette information au sujet des saisons sur les planètes et avec Pluton dont on parle pas beaucoup, eh bien que se referme ce numéro de votre émission La tête dans les étoiles. J'espère que ce numéro vous a plu. Vous le savez, nous nous quittons pour mieux nous retrouver le mois prochain, même station, même heure, pour de nouvelles actualités dans le domaine de l'astronomie et de l'astrophysique. Chers amis, nous avons un petit peu de temps avant de laisser la place aux copains. Eh bien, nous allons nous quitter en musique. Eh bien, je vous retrouve donc le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Salut, salut. Shine bright, hold tight. When you make it to the other side, remember how you feel inside. Underdog. Shine bright, hold tight. Underdog. When you make it to the other side, underdog. Remember how you feel inside. Out from the darkest spaces, the nexus of creation, beyond imagination. Some places need be sacred, untouched by limitation, from views and validation, and stripped from imitation. No hesitation, we'll be waiting ever for the perfect situation. So why not embrace it? Why see division where there is no separation? How can you claim it when you do not know the language? Say it. We call for transformation. Get up, get out, and go and get it. Go and get it. Anyhow. So when you make it to the other side, underdog. Shine bright, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside, and who you are inside, and what it's like to be the underdog. Shine bright, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside, and who you are inside. Know what it's like to be the underdog. In space, give and take, live in grace, keep the pace if you choose to chase. So many rules to break, who do you obey? The wolf you feed will lead you through come what may. Who will it be today? You can retreat, what will you eat today? You can retreat and save your energy for better days. And when you do a double down for your next play and for the next day anyway, they'll always label you an underdog, underdog, underdog. Shining underneath it all, underneath it all, underneath it all, underdog. Shine bright, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside, and who you are inside, and what it's like to be the underdog. Shine bright, hold tight, underdog. So when you make it to the other side, underdog. Just remember how you feel inside, and who you are inside. And what it's like to be the underdog. Dog, 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 dog.
outside. Remember how you feel inside. Shine bright, hold tight. When you make it to the other side, remember how you feel inside. Who you are inside.
Janeiro, c'est jamais.